Chapitre 27. Le monospace fusait entre les véhicules de l'autoroute, sa sirène rugissante et ses gyrophares frénétiques. Ludivine se pencha à nouveau pour distinguer le compteur de vitesse. 137 km/h. Il n'allait pas assez vite à son goût. Malgré la circulation dense, malgré les ralentissements, les virages. « On est encore loin ?» demanda-t-elle au pilote. « 20-25 minutes. » Son téléphone collé à l'oreille, depuis le départ, elle faisait le point avec le groupe de Magali, qui avait pris un autre chemin en partant plus tôt, pendant qu'elle et Seignon accompagnaient le colonel Aprican pour rallier l'unité du GIGN, désignée pour intervenir. « Vous y êtes, Mag ? On vient de se garer à l'entrée du chemin. Je vois pas Alex, et il répond pas au téléphone. T'as des nouvelles ? Non, mais... » Ludivine réalisa alors qu'elle n'avait pas raccroché, depuis son départ. Et Seignon, dans la précipitation, avait laissé son portable à Paris. « Je te rappelle », dit-elle en coupant la communication. Un appel en absence s'afficha peu après. « Alex. » Puis un SMS. « Vous êtes où ? Urgent. » Il avait été expédié moins de 20 minutes plus tôt. Ludivine pressa sur la touche pour lancer l'appel. Personne ne décrocha, et la messagerie se déclencha. «
Alex, je viens seulement d'avoir ton message. Reste en place, tu m'entends ? Mag, Franck et Ben sont là. Ils te cherchent. Rappelle-nous. »
Trois fois encore, elle tenta de joindre son collègue sans plus de réussite. Lorsqu'ils arrivèrent à Achergues-en-Cormier, à l'entrée du chemin qui desservait la maison de Victor Mag, les trois monospaces pilèrent devant les deux voitures de la gendarmerie, déjà stationnées.
« C'est à moins d'un kilomètre tout droit, » fit Magali par la fenêtre ouverte de Seignon. « On a bouclé l'accès. « Alex est là ?»
questionna aussitôt Ludivine.
« Non ? Tu l'as pas eu ? Putain, Alex, où est-ce que tu te planques ?»
Le colonel Aprican, sur le siège passager, fit des moulinets de la main pour signifier son agacement.
« Il nous fait sortir toute l'artillerie et il n'est même pas là pour s'en expliquer ?»«
Je lui fais confiance, mon colonel. S'il a demandé le GIGN, c'est qu'il est sûr de lui. »«
Et je fais quoi, moi ? Je lance une opération sur un civil sans en savoir plus ?»
s'agaça l'officier. Dès l'information donnée par Alexis, Ludivine et Seignon s'étaient dépêchés de récolter tout ce qu'ils pouvaient en quelques minutes sur le suspect en question.
Victor Mag vit non loin des dernières victimes. Il a déménagé cet été. Au moment du premier crime du fantôme, il vivait tout près de Clairnoury, dans la région du Bois-Larry. Et surtout, il est employé dans une entreprise de sécurité. Il est tout à fait possible que dans le cadre de ses fonctions, il ait trouvé le moyen de faire un double des clés de chacune de ses proies. Le gars est un suspect sérieux, mon colonel.
Au point de faire intervenir Satori, le quartier général du GIGN, je ne lance rien s'il ne vient pas prendre ses responsabilités. Et il a intérêt à faire vite.
Il est là !»
répéta Ludivine, comme pour s'en convaincre. Magali se pencha pour voir le colonel.
« On fait quoi en attendant ? Si le suspect sort de chez lui et nous tombe dessus ici, nous n'aurons plus l'avantage de la surprise, et nous serons en pleine rue, »
fit-elle en désignant les quelques maisons. Aprican se tourna vers Ludivine.
« Je vous donne 3 minutes pour joindre Timé. »
Ludivine bondit hors du véhicule et fit à nouveau sonner le téléphone de son partenaire. Cette fois, elle ne laissa aucun message et envoya un SMS.
« Tu es où, merde ? On est en place. On t'attend. »
Le délai imparti s'écoula et Aprican aboya en direction de Ludivine.
« Remontez, Vanker !»
La jeune femme se précipita vers son supérieur.
« Je le sens pas. Il se passe quelque chose. Alex devrait répondre.
C'est pour ça qu'on y va. J'espère pour lui qu'on va pas se planter. Sinon, il faudra qu'il se trouve une autre occupation loin de l'ASR. »
Les hommes du GIGN remontaient la rue en file indienne, protégés par les deux monospaces banalisés qui roulaient au pas. Ils étaient tous lourdement équipés, casques à visière, gilets pare-balles, genouillères, munitions en surplus, fusils d'assaut MP5 devant eux, armes de poing dans le holster. Les deux groupes avançaient, prêts à mener une guerre sans merci s'il le fallait. Ludivine et Seignon suivaient à bonne distance, refusant catégoriquement de rester en retrait avec les autres. Ils avaient enfilé eux aussi leurs gilets, griffés des lettres blanches gendarmerie dans le dos, et trottaient 15 mètres derrière les deux unités d'intervention, Six Hour à la main, conscients qu'ils n'étaient là que pour observer, en aucun cas pour agir. Les talons en gomme du commando produisaient un martèlement mat, un orchestre de percussions étouffées, se rapprochant de plus en plus du domicile de Victor Mag. Tout était dans le timing. Ludivine le savait. Il était inutile d'être 60, avec des lance-roquettes. Il suffisait de débarquer coordonnées, d'investir les lieux rapidement, et surtout, de laisser faire les gars juste devant elle. Avec Sénion, il n'était là que pour suivre au plus près l'action, pour identifier Alexis, s'il le croisait, et notifier son arrestation à leur suspect une fois qu'il serait neutralisé. L'officier en charge du groupe du GIGN avait d'abord refusé l'intervention. Pas tant que toutes les précautions ne seraient pas prises, en commençant par couper la circulation des trains. Apricant avait pris sur lui, sous l'insistance de Ludivine, au nom de la disparition d'Alexis, de l'urgence. Et ils avaient lancé l'interpellation, dès qu'un véhicule médicalisé des pompiers était arrivé sur place, par précaution. Une question obsédait Ludivine pour l'heure. Savoir ce qu'Alexis fichait. Elle n'aimait pas ça. Ce n'était pas son genre d'agir de la sorte. Son portable sonnait. Ce n'était pas un problème de batterie. Elle ne pouvait s'empêcher d'envisager le pire. La première escouade était toute proche de la maison. Le toit devenait visible entre les branchages. Un des leurs avait fait un repérage en passant devant en voiture, 5 minutes plus tôt, comme un promeneur égaré, pendant qu'un autre examinait la bâtisse depuis la forêt pour en déterminer les points d'accès. L'approche avait été progressive. Mais les derniers mètres furent engloutis en un instant. Tout s'accéléra brusquement. Le temps qu'elle analyse la situation, Ludivine vit le premier groupe jaillir sur la porte d'entrée, bouclier et bélier en avant. Tandis que le second se séparait en deux pour couvrir les autres façades de la maison, tout en restant à bonne distance. Mais tous disposés en arc de cercle, à 120 degrés, de manière à éviter de se retrouver face à face et risquer ainsi un tir ami. Store en acier rouillé ouvert, fenêtre sale, pas de lumière à l'intérieur. Il n'avait aucune certitude que Victor Mac soit chez lui. Les deux enquêteurs de la SR s'accroupirent derrière la palissade tordue, ne laissant dépasser que le sommet de leur crâne pour assister à l'opération. L'homme au bouclier guidait ses troupes. Il y eut soudain un claquement sec et une gerbe d'étincelles illumina très brièvement le bouclier noir. Ludivine réalisa que c'était un tir de fusil automatique.
« Coup de feu !»
hurla l'un des membres du GIGN en même temps. Avant qu'il puisse se réorganiser, une rafale crépita depuis la maison, faisant exploser la porte-fenêtre de la façade principale et projetant des débris végétaux, ainsi que de la terre tout autour du groupe qui venait droit sur la porte d'entrée. Une balle entra juste au-dessus de la genouillère d'un des militaires, qui trébucha immédiatement. Un autre fut transpercé à l'aine, et un troisième fut criblé en pleine poitrine, où le gilet stoppa les projectiles en émettant un son mat. L'homme au bouclier pivota pour protéger au mieux ses collègues blessés, avec son rectangle en céramique d'alumine renforcé. La seconde rafale tapa en plein dedans. La riposte fut instantanée. Dès qu'il eut un contact visuel clair avec le tireur, s'assurant qu'il ne tenait aucun otage pour le protéger, un des membres du GIGN ouvrit le feu à son tour. 3 balles de MP5. Une toucha la cuisse. Victor Mag se retint à un meuble et releva son pistolet mitrailleur en direction du tireur. L'homme n'avait aucun bouclier balistique pour le protéger, ni son binôme, qui fit le même calcul rapide. Arme, forcené, canon dans leur axe, blessure, mort possible. Ils pressèrent leur détente en même temps, juste avant que Victor Mag en fasse autant. 6 balles fusèrent dans les airs, 4 le touchèrent, 2 le fauchèrent au niveau du bassin, 1/3 au ventre, et la dernière juste entre le cœur et le poumon. Cette fois, Mag s'effondra, arrachant au passage la couverture de son canapé qui lui tomba dessus tel un suaire. Le premier groupe évacué en urgence, tandis que les 2 militaires qui venaient d'abattre le tueur se précipitaient vers la maison. Rien ne se passait comme prévu. Des hommes au sol, le suspect probablement mort. En dépit de toute règle élémentaire de sécurité, Ludivine décida d'agir. Elle sauta par-dessus la petite palissade et fonça derrière les 2 militaires en tenue tactique.
« Ludivine, non !»
clama Sénion. En un instant, ils passaient par la baie vitrée éventrée, canon de leur MP5 pointé vers le corps de Mag. La couverture se souleva, et les 2 hommes, aussitôt imités par Ludivine, posèrent un genou à terre en criant
« Ne bougez plus ! Stop ou je tire !»
Moins d'une seconde plus tard, une nouvelle détonation claquait. Cette fois, le tueur retomba. Ludivine ne lâchait pas du bout de son canon le corps sous la couverture. Un des militaires tira un coup sec pour le dégager. La dernière balle l'avait cueilli au cou. Un petit geyser de sang pulsait, au rythme des battements du cœur.
« Merde !»
L'agent de sécurité cligna des yeux. Hagard, la bouche ouverte. Le militaire donna un coup de pied dans un revolver que tenait encore le tueur et se pencha pour compresser la plaie avec ses gants. Ludivine comprit que Mag avait relevé son arme dans sa propre direction pour se suicider.
« Médecin !»
aboya le militaire à son chevet.
« Faites venir le médecin !»
Son binôme se tenait en retrait, l'arme levée, toujours prêt à agir. Il ne cessait de la braquer vers les portes fermées et la cuisine, dont il ne pouvait distinguer si elle était vide ou pas. Deux autres membres du GIGN entrèrent pour foncer dans cette direction, suivis par deux autres qui prirent en charge de nettoyer les autres salles du rez-de-chaussée. Ludivine leur emboîta le pas. Constatant que la chambre était vide, tout comme la salle de bain, elle fonça vers la cuisine avant d'être retenue par un des militaires.
« N'allez pas si vite. Les gars pourraient vous prendre pour une cible hostile. Laissez-nous passer. »
Ils l'écartèrent et investirent les escaliers qui conduisaient au sous-sol, après avoir parlé avec leurs collègues en bas. Lorsque la jeune gendarme parvint dans la cave, un des commandos leva la main vers elle. «
C'est clair. Par contre, il y a deux macabres là derrière. C'est tout frais. »
Ludivine ferma les yeux un court instant.
« Pas ça. »
Elle entra dans la chambre de torture de Victor Mag. Les tentures de velours rouge dansaient encore du passage du GIGN. Une femme nue, les jambes dans des étriers en chaîne, gisait sur une table. Un trou au niveau de la tempe. La moitié du crâne arraché de l'autre côté. Et à ses pieds, il y avait Alexis. Du moins, ce qu'il en restait.